Ce balado parle du Québec, des régions et plus particulièrement de chez nous, la Côte-Nord. Ici, on interpelle ceux qui habitent et qui s'activent. On aborde ensemble enjeux, actions et pistes de solutions. Je suis partie à la rencontre de ces citoyens engagés dans leur entourage, pour leur communauté. Ces gens inspirants qui font de notre région ce qu'elle est aujourd'hui. À vous tous, merci. Je m'appelle Émilie, vous écoutez La Voix des Régions. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré avec Karine Lacasse fin novembre 2020. Karine, c'est une femme pleine d'énergie qui est née ici, à Baie-Comeau. À la couleur de cette citoyenne engagée, cet épisode passionnant parle de voyage, d'éco-citoyenneté, de développement régional et de sentiment d'appartenance. Bonjour Karine, merci d'être là avec moi.
Bonjour.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, si je te dis la voix des régions, qu'est-ce que ça t'évoque?
Moi, je pense que c'est au niveau des particularités de la région, puis tous les gens qui s'impliquent, tu sais, qu'est-ce qu'ils font sur le territoire, qu'est-ce qu'ils font pour s'adapter, puis qu'est-ce qu'ils font aussi pour développer cette région-là, puis d'en parler, et c'est ça.
Alors, avant de te connaître un peu plus, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire? D'où est-ce que tu viens et c'est quoi un peu ton chemin?
Oui, ben moi, en fait, je suis originaire de Baie-Comeau. Historiquement parlant, ça s'appelait Haute-Rive. Donc, par la suite, les secteurs se sont fusionnés et on appelait ça Baie-Comeau. Oui, fait que je suis originaire d'ici, puis mes ancêtres là, sont vraiment aussi en grande partie nord-côtiers, surtout la Haute-Côte-Nord, Bergeron, Escoumin, puis donc c'est ça. Et j'ai trois enfants maintenant, trois jeunes enfants pour le moment. Et on a comme projet ensemble, moi puis mon conjoint, de construire, on fait une autoconstruction, une maison, qui on voulait qu'elle soit finalement écologique le plus possible. Donc ça fait 10 ans en fait qu'on réfléchissait à ce projet-là et on a débuté à la fin de l'été passé à construire. Donc ça c'est un gros projet. Étant vu que je suis native d'ici, ben c'est sûr que j'ai des parents qui viennent d'ici, ben on est très nature dans un sens. Depuis que je suis tout petite, on est presque à toutes les fins de semaine dans le bois, comme on dit, nous autres on appelle ça de même, le bois. On va à notre camp, on avait un camp à Manic 5, on avait un chalet au lac Potvin, un chalet aux Escoumins, donc on était très 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 souvent dans le bois. C'est des bons souvenirs que j'ai de provenir d'ici, là. C'est la meilleure chose que j'aurais pas pu garder comme valeur la nature, là, finalement, là.
Est-ce que tu es restée depuis ta jeunesse en oui. France sur la Côte-Nord ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu es partie?
Oui, justement, je suis partie parce qu'étonnamment, quand on est adolescent puis qu'on voit tout le monde partir, on a le goût de découvrir. Puis en fait, je voulais pas rester ici. C'est drôle, hein? Là, aujourd'hui, je parle comme si j'avais toujours vécu puis j'ai toujours resté ici, mais non. Je voulais me sauver. Mais je suis quand même partie en région, là, pas très loin. Là. Je suis partie à Matane. Mais après ça, ça a évolué. J'étais allée travailler à Québec, dans le coin de Montréal. Fait que j'étais partie 10 ans en tout. Comme mon conjoint aussi est parti 10 ans. La majorité, en tout cas, à mon époque, on partait tous parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'options ici au Cégep. Justement, à travers le temps, là, si tantôt on en parle un petit peu plus au niveau de l'engagement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont fait que mes valeurs ont changé un peu, ont évolué. J'ai eu la chance de voyager aussi. Puis, j'étais un peu, à l'époque, dans la vingtaine, début vingtaine, je voulais sauver le monde. Donc, et voilà, je me retrouve ici, puis je suis pas en train de sauver le monde, mais on est en train de travailler là-dessus pour améliorer les choses en région.
Tu le sauves à ton échelle.
Ouais, c'est ça, exact.
Super. Donc, t'étais de l'autre côté du fleuve,
oui.
T'es à Rimouski.
Oui.
T'as étudié en quoi?
Ben, au Cégep de Matane, j'ai fait une technique en tourisme. Parce que justement, je voulais voyager. Puis déjà à l'époque, on parlait du tourisme durable et de voir une nouvelle façon de faire là, au niveau de l'industrie touristique. Puis sur la Côte-Nord, tu sais, c'est très récent le tourisme. Là. On parle de fin des années 90. Là. Fait que c'est un domaine qui m'intéressait pour le voyage. Mais je me suis rendu bien vite compte que le tourisme n'est pas nécessairement toujours de voyager. C'est ce qu'il nous disait au début. Après ça, plus tard, j'ai travaillé un temps. Puis j'ai décidé d'aller faire mon bac en histoire. J'ai commencé à le faire à Laval, à Québec. Mais vous allez peut-être rire, là, mais une de mes amies à l'époque me disait que ça me faisait pas d'être à Québec, j'avais l'air d'un orignal là, sur la rue. Fait que, en fait, j'aimais mieux les petites écoles où, tu sais, à Laval, on était 200 dans une classe, puis c'était compliqué de poser une question. Donc, j'ai opté l'année d'après pour Rimouski. Et là, il y avait un bac en histoire, pratique et intervention culturelle. Et moi, je suis une fille d'action. Fait que c'était beaucoup plus de l'action en histoire. Puis là, on avait des petits groupes là, d'à peu près 10 à 20. Là. Fait que c'était beaucoup plus participatif. Là.
Donc, pendant 10 ans, tu étais en dehors de ta région natale, oui. La Côte-Nord.
Oui.
Est-ce que, justement, tu parles de voyage, est-ce que toi, tu en as profité pour voyager?
Oui, j'ai eu la chance d'aller au Moyen-Orient, puis d'ailleurs avec des amis de Bécomo aussi. Puis on est allé aussi en Amérique du Sud, puis aussi en Irlande et en Écosse. Fait que, puis avec mon conjoint plus tard, on est allé, lui est plus allé travailler dans l'Ouest. Fait que j'ai eu la chance de voyager, puis c'était un peu ça aussi mon but premier, c'était d'apprendre les langues, puis d'avoir un choc culturel. J'ai eu un choc culturel dans certains pays, mais ça a été plus profond que ça, puis je m'attendais pas à ça, là, un changement de valeur. Au niveau, surtout, des croyances, parce qu'au Moyen-Orient, tu sais, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de tout ce qui est les différentes religions, puis les comprendre pour se comprendre entre nous, mettons, là. Ben, c'était en 99-2000 que je voyageais, puis c'était pas encore dans nos perceptions, la religion, puis... Mais là, je l'ai vécu. Donc, ça m'a remis en place sur, OK, c'est si important que ça pour des personnes, les croyances, parce que, tu sais, au Québec, on a comme perdu tout ça, nos pratiques, puis beaucoup de croyances aussi qu'on a perdues. Puis c'est ça, puis de revenir ici, puis de me rendre compte, OK, on est dans un pays libre de penser, là, libre de vivre comme on l'a envie, là, ça m'a marqué à 18 ans. Puis il y a aussi le fait, toute la consommation qui est différente. On est dans un confort assez extrême ici, je dirais, là. Puis même n'importe quoi, là, parce que vu qu'aujourd'hui je travaille dans un domaine environnemental, tu sais, comment se débarrasser de ces déchets, exemple au Pérou, là, ça s'accumulait puis après ils brûlaient. Tu sais, ici on fait pas ça, là. Ou tu vas dans des pays où il n'y a pas de papier de toilette. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas avec la main gauche. Donc, t'apprends à d'autres façons de faire qui sont finalement aussi utiles, aussi faites la bonne façon, mais t'apprends vraiment des choses que t'as jamais vues chez vous. Là. Ça change les valeurs. Ça change vraiment. Je suis revenue aux sources, puis je me suis posé des questions là, quand je suis revenue ici. Là. Même que de revenir, c'est plus difficile. Parce que tu te dis, tu sais, crime, on est donc bien dans un confort intense, puis on a tout ce qu'on veut à portée de la main, c'est jamais compliqué. Des fois, on chiale, justement, pour absolument rien, c'est fou. Fait que ça me ramenait à ça, puis ça m'a donné le goût de m'impliquer chez nous plus. Tu sais, à l'époque, j'avais lu L'alchimiste de Paulo Coelho, j'oublie tout le temps son nom, mais. Puis c'était un peu ça la finale, là, tu sais, la conclusion que. De revenir chez nous, finalement, c'est ce qui nous... on cherche toute notre vie, mais finalement, c'est pas si loin que ça, là, nos valeurs. Fait qu'en revenant ici, moi, j'ai découvert que je peux pas sauver le monde, mais je peux peut-être changer des choses à l'échelle locale, tu sais. C'est ce qui... Après mes voyages, j'ai changé un peu de mentalité, là.
Et d'avoir vu tout cet endroit-là, ouais. Qu'est-ce qu'aujourd'hui... qu'est-ce que la Côte-Nord a de plus?
Ah mon Dieu, elle a beaucoup de choses. Parce que, tu sais, en ayant aussi resté à différentes places au Québec, c'est fou comment il y a des choses qui m'ont manqué. Je me suis aperçue que la forêt boréale n'est pas partout. Puis d'avoir passé toute ma jeunesse dans le bois, c'est sûr que ça me manquait juste le décor puis les odeurs. C'est assez fou. Puis l'hiver aussi, c'est pas pareil. Puis le fleuve. Il n'y a aucune région au Québec où tu as la forêt boréale puis le fleuve. Tu sais, l'Abitibi a la forêt boréale, la rive sud a le fleuve, mais un l'autre n'a pas. Donc, c'est ça, le décor, la température, juste l'été, il fait ben trop chaud en ville. T'arrives ici sur la Côte-Nord, t'es tempéré. Tu sais, les belles plages. Il n'y a pas d'autre endroit que les plages comme chez nous. Là. Fait que c'est surtout le paysage et le décor, Puis c'est sûr que la famille aussi a joué pour beaucoup, là, tu sais, de revenir parce que moi, ma famille est restée ici. Puis tout est à faire. À chaque fois qu'on revient, là, c'est ça qu'on se disait, là, pour se convaincre de rester parce qu'il n'y a rien de facile. Mais tout est à faire, fait qu'on peut innover, on peut repartir sur des bases solides quand on développe. C'était souvent ça qu'on se disait en jeune qui revenait à l'époque à Bécamo parce qu'il y a quand même une adaptation. Là. On n'a pas tous les services, on n'a pas un monde culturel à tout casser comme d'autres villes. Mais il y a beaucoup de choses déjà qui se sont améliorées depuis ce temps-là quand on est revenu vers 2008. On est déjà en 2020, fait que ça fait 12 ans qu'on travaille fort pour n'importe qui est revenu là, pour changer les choses.
Tu parlais tout à l'heure d'engagement, tu as parlé un peu de développement.
Oui.
Si on aborde le sujet de la développement, du développement ouais. de la région, est-ce que tu trouves que c'est ça roule? Est-ce que la région est en train de se développer comme ce à quoi tu t'attends ou...
Non, c'est pas facile.
C'est dur.
Oui, c'est très dur. Puis au début, comme j'avais la mentalité de vouloir sauver le monde, puis que ça aille tout aille vite, puis que tout le monde soit dans l'action, il a fallu que je me réajuste. Mais en fait, il y a deux personnes, deux femmes qui m'ont dit quelque chose qui m'ont fait, tu sais, qui m'ont permis de me réadapter à ma région parce que ça bougeait moins vite. C'est à un moment donné, il y avait eu le forum sur l'eau en 2003, ici à Bécamo, puis il y avait justement une Africaine qui donnait des ateliers. Puis c'était vraiment intéressant son atelier sur l'eau, là. En tout cas, je pourrais en parler longuement, mais j'avais été la voir, puis je la trouvais vraiment inspirante, puis j'avais demandé, moi, là, tu sais, en tant que fille à Bécamo, là, qui a 20 ans, là, ou qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde? Puis c'est là qu'elle m'a répondu, commence par aider localement, puis ça va aider globalement. Puis par la suite, tout ça s'est confirmé parce que c'est vrai, si les gens dans ton coin sont informés, sensibilisés, éduqués, ben là, tu peux, par la suite, eux, ils vont retransmettre ça à d'autres personnes. Donc, des petites choses vont faire que ça va évoluer. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que, tu sais, je me suis dit... Puis tout ça complétait aussi avec une autre phrase que quelqu'un m'avait dit, c'est que, Karine, tu pourras pas tout changer. Tu sais, puis... Un projet, ça peut être comme un grain de sable parmi plein de grains de sable, mais au moins ce grain de sable-là va avoir eu un impact. Un petit projet peut avoir beaucoup d'impact sans s'en rendre compte aussi dans les communautés. Parce qu'on travaille avec des petits villages qui n'ont pas de moyens, on n'a pas de ressources souvent, on n'a pas de personnes qui ont d'expertise. Fait qu'on est toujours sans moyens. Ben, en fait, pour ma part, j'ai travaillé longtemps dans les OBNL. Tu veux changer les choses, fait qu'à long terme, tu peux t'épuiser aussi. C'est facile de s'épuiser parce qu'on met toujours beaucoup plus de temps qu'on devrait mettre à la base parce qu'on n'a pas toutes les ressources, ça c'est sûr. Fait que tout ça, fait que tu te dis quand t'as un petit projet qui a été fait, t'as pas réussi à tout faire, mais ce petit projet-là, s'il y a eu un impact, si t'as réussi à sensibiliser, je sais pas moi, 10 personnes avec ce projet-là qui vont en parler à d'autres, ben c'est comme ça que la société va évoluer. Plus la société est informée, sensibilisée, ben les choses évoluent de façon positive. Fait que... Ces deux phrases là m'ont quand même aidé à me convaincre qu'il fallait que je continue.
Et que ça fait boule de neige.
Ça fait boule de neige, ouais.
Alors après avoir eu ces deux retours-là de ces ouais. personnes, c'est concrètement, qu'est-ce que tu as décidé de faire pour agir?
J'ai décidé de m'impliquer. À une certaine époque, j'étais plus dans plein de comités avant d'avoir 3 enfants. De m'impliquer, d'apporter mes connaissances. Où je pouvais les apporter. Exemple, je me suis impliquée dans la société historique. On montait des expositions. Puis là, le comité était vieillissant, fait qu'il y avait besoin de relève. Je l'ai fait pendant un bout. Après ça, entre jeunes aussi, nous qui arrivons, on se parle, fait qu'on on pouvait s'impliquer 2-3 pour apporter nos connaissances aussi. À l'époque de l'ouvre-boîte, ouais, elle était pas ouverte, fait qu'il y avait une première, ça c'est toutes des gens que je connaissais à l'époque qui ont parti ça dans Marc-Pierre Clavette là, qui est reparti en ville, mais qui venait d'ici, puis on se regroupait beaucoup entre nous, puis tu sais, l'ouvre-boîte ça a été beaucoup de monde qui ont été bénévoles, beaucoup de monde qui ont mis du temps, d'ailleurs il y avait mon conjoint lui qui est artiste, qui a été pionnier, un des premiers à exposer. Puis avec nos contacts aussi, notre entourage, venez à l'ouvre-boîte, venez à nos expositions, tu sais, on parlait, on s'impliquait, on allait aux événements. Ça a fait que l'ouvre-boîte est encore là aujourd'hui. Puis elle s'est développée, elle a évolué. Puis donc c'est ça, c'est d'être un petit peu partout, de se renseigner, s'informer aussi, pas rester cloîtré. Fait que c'est ça, j'ai mis beaucoup de temps, énormément de temps en dehors de mes heures de travail, puis aussi d'aller me chercher des petites expertises par-ci, par-là, puis de choisir des causes aussi qui me tenaient à cœur, que j'avais un sentiment d'appartenance aussi, puis ça, c'est pas toujours évident, le sentiment d'appartenance. Mais il y avait des projets même pour des jeunes, là, ça s'appelait Manique en tête à l'époque, là, une dizaine d'années. C'était pour développer le sentiment d'appartenance en région. Ils avaient développé ça, fait qu'ils rappelaient tout le monde qui était parti pour, on faisait un événement dans l'année, puis là on se rassemblait toutes, puis on disait « Ah, voici les projets qui sont en cours, tu sais, il y a des choses qui se développent en dehors des industries, là, le tourisme se développe, les médias se développent, tu sais, il y a eu des c'est Bokeh qui s'est développé. Là. Il y a eu une époque où il y en avait plein de compagnies qui se développaient.
Bokeh, mais c'est une entreprise de...
De médias, plus de conception vidéo. Mais là, c'est sûr qu'il y en a qui ferment. Il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment. Fait que tu vois tout ça. Puis des fois, ça te décourage de voir, après avoir travaillé si fort, des choses qui ferment. Et ça arrive encore. Fait que ça revient à la phrase, garde, continue quand même à travailler pour que les choses se développent. Mais ça veut pas dire que ça va être facile puis que ça va durer toute la vie, mais au moins la période que tu vas avoir travaillé sur ce projet-là, ça va avoir sensibilisé du monde. Puis tu sais, des fois j'en rencontre, tu sais, juste pour te donner un exemple, à l'époque je travaillais au Parc Nature, puis mon but c'était de développer la formation encore plus pour que les guides restent le plus longtemps possible, puis de leur apporter, moi vu que j'avais une spécialité en tourisme puis une spécialité en interprétation, puis que si je partais, exemple, du parc, ben, qu'il allait avoir des outils pour former leur guide, d'en profiter de cette période-là. Ben, un jeune plus tard, lui, à l'époque, il devait avoir 15-16 ans, il était hyper gêné. Hein. Puis quand il était revenu, il était super extroverti, il avait une blonde, puis tu sais, ça l'avait marqué, le parc, ça l'avait marqué d'apprendre à communiquer devant les gens, puis fait que tu sais, quand t'as des résultats que tu vois plus tard puis que ça évolue, là, ça touche, là, tu sais, quand même, là. Fait que, c'est ça. C'est plein de petites choses comme ça qui fait que t'as le goût de continuer.
Et finalement, même s'il y a des projets, des choses, t'as mis l'énergie, ouais, qui ferme,
ouais,
ça aura pas été en vain parce que, à travers ça, t'auras fait en sorte que des gens travaillent ensemble,
ouais,
t'auras semé des petites étincelles autour, ouais, de toi et qui peuvent changer la vie de certaines personnes, comme la vie de ce garçon-là qui finalement ça lui a permis de devenir plus extraverti et de s'affirmer.
Puis tu sais, ça a créé du sentiment d'appartenance. Ça aussi, c'est une autre chose en allant étudier en histoire. En région, surtout sur la Côte-Nord, les sites historiques ou peu importe sont souvent pas reconnus. Ici en région, on a une bonne partie de la population qui ne viennent pas d'ici, qui sont venus qui viennent travailler, c'est du fly-in, fly-out, puis qui repartent après. Ça a été longtemps comme ça. Moi, j'ai la chance de venir d'ici, j'ai la chance d'avoir un sentiment d'appartenance, puis de pouvoir partager ce sentiment d'appartenance-là, comme à toi, mettons. Qui ne subit pas Bécamont, je pense qu'il vit, là, parce que il y a plein de belles choses, puis faut prendre le temps de montrer comment c'est beau, puis quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, souvent avec mes amis, ben, tu sais, on leur montre plein de choses, puis pour leur dire, ben, t'es là ici pour un an pour travailler, mais on va t'en montrer plein, fait que peut-être que cette personne-là va rester au bout du compte, mais d'avoir un sentiment d'appartenance, ça te donne le goût de participer au changement collectif, puis de... Fait que ça, je l'avais, puis le patrimoine historique, tu sais, comme exemple, là, moi je travaillais au Parc Nature, puis ce que je voulais, c'était aussi mettre en valeur le patrimoine historique. Avec ma collègue, on a travaillé fort là-dessus, parce qu'à une certaine époque, ce parc-là, là, tout le monde s'en foutait, puis elle est là avec leur VTT brisé, puis tout ça. Puis depuis qu'on a fait les capsules, puis qu'on a intégré justement des gens du village dans les capsules historiques, mais ça a créé un mouvement de... Tout le monde voulait participer à développer d'autres capsules, puis ils sont fiers maintenant de leur village, puis de ils invitent des gens à venir. Fait que la partie patrimoine historique, là, t'sais, que les gens oublient souvent, là, ben c'est super important pour s'identifier, puis de reprendre le... de reconnaître le milieu, là, t'sais, par la mémoire, puis de reconnaître qu'il y a eu leur histoire ici, puis que... Ça vaut la peine de le partager à la future génération.
J'entends beaucoup de ce que tu me dis. J'entends engagement, j'entends d'être attaché à son territoire. Tu penses que aujourd'hui, avec là on est dans une situation avec la pandémie du ouais. Covid-19, est-ce que tu penses que c'est des enjeux aujourd'hui pour notre territoire d'être attaché à son territoire et de s'engager? Est-ce qu'encore plus qu'avant, ça devient un enjeu?
Ben oui, parce que c'est sûr, parce que là, y a, t'sais, ce qui était difficile ici pour avoir travaillé en développement économique, c'est que les gens, justement, vu qu'ils viennent pas d'ici, ou peu importe, on n'a pas beaucoup de choix au niveau, exemple, de ce qu'on peut consommer, là, les produits, peu importe le transport. Donc là, déjà que c'était pas facile pour les entreprises d'ici de se développer, parce que les gens vont souvent ailleurs. Là, imaginez, en temps de pandémie, les gens achètent beaucoup par Internet, fait que ça donne encore, puis les gens sortent moins, ça c'est sûr, fait que ça donne encore un coup aux entreprises, que on le voit depuis des années, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme, beaucoup d'entreprises ont fermé. Mais tu sais, il faut faire de l'achat local, fait que tu sais, je trouvais ça intéressant que la Chambre de commerce ait fait un mouvement pour l'achat local. Fait que oui, ça a un impact à la région, déjà qu'on avait des difficultés à la base, on en avait vraiment beaucoup. Fait que là, avec ça, ça a encore bien plus d'impact au niveau du développement, ça c'est certain.
On dirait vraiment que depuis un certain temps, notamment lié à la pandémie, les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus fiers d'être Québécois. Ils sont fiers ouais. de dire l'achat local. Et comme tu dis, il y a vraiment quand même un gros mouvement. Achetons ici. Ouais. Achetons ici parce que finalement, avec la pandémie, les pays qui te fournissent certaines choses, bah, peut-être peuvent plus te le fournir ou alors c'est plus cher. Ouais. Donc, est-ce que là, on serait pas mieux se retourner vers les entreprises d'ici et que finalement... C'est comme un cercle vicieux parce que les gens qui vivent ici en région, si ils ferment leur entreprise, peut-être qu'ils vont partir. Puis ouais. la rétention de main-d'œuvre, je pense que c'est quand même aussi un défi là.
C'est vraiment un enjeu de retenir les gens ici. Là. J'en parlais par des exemples tantôt, là, mais ça, c'est assez fou. Mais ben justement, tu sais, comme tu dis, ça a été positif dans un sens parce qu'il y a plein de petites entreprises qui ont innové. Puis qui sont allés, tu sais, je donne juste un petit exemple facile, mais Cadeli,
une entreprise de Cadeli.
Cadeli à Bécomo qui fait des produits de plus soins corporels, beauté maison, puis zéro déchet. Ben là, tu sais, avec les enfants, il a fallu trouver des activités à faire. Puis on vu que il y a plein de choses qui existent en ligne de partout, tu sais, faut que t'innoves parce qu'on pouvait plus sortir un certain temps. Ben elle a fait des boîtes tu sais, pour faites par toi-même là, pour que tu puisses faire une activité, un atelier avec ton enfant, avec une boîte pré-montée avec tous les éléments, puis t'as juste l'activité à faire avec ton enfant. Fait qu'on pouvait commander ça par internet. Puis c'était à Bécomo, fait que puis elle livrait, puis non, tu sais, puis je vois le manoir du café aussi qui a été rapidement on refait des repas qui livraient où tu avais une heure précise ton rendez-vous, tu pouvais aller chercher ton café et puis tu sais ils ont fait des nouveaux styles de repas aussi de ce que j'ai compris là pour à manger prêt à manger à la maison. Fait que tu sais il a fallu innover là, les petites entreprises là, ceux qui souhaitaient s'en sortir, puis c'est comme tu dis, ça a créé comme la population a dit « Ah, waouh, on va les aider, puis on embarque, c'est hot ce qu'ils font de toute façon, c'est mieux que même d'autres entreprises. » Fait que...
Tu nous as dit tout à l'heure qu'il a fallu que tu choisisses là où tu mets ton temps, là où tu mets tes ouais. actions. Toi, tes choix, ça ouais. a été dans les domaines du patrimoine, ça a été tes choix, oui. au fond. C'est quoi qui t'a donné au fond pour avoir fait ces choix-là?
Pourquoi j'ai choisi mes implications dans ces domaines-là? Parce que au niveau historique, j'avais des connaissances, puis c'était sous-exploité là les sites qu'on avait ici, puis c'était pas reconnu, puis j'ai choisi aussi beaucoup dans mon temps personnel, je dirais dans ma vie personnelle, le côté vraiment environnement. Je l'avais quand même à l'intérieur de moi depuis que j'étais toute petite parce qu'on était tout le temps dans le bois. Tu sais, puis dans le bois, tu consommes beaucoup moins. Fait que tu sais, on pouvait rester 2 semaines à Manique 5, là, sans s'organiser avec ce qu'on avait. Puis je me souviens, je voyais des dépôts clandestins, puis moi, ça m'écœurait. Puis c'est pas vraiment mes parents qui m'ont mis là-dedans, parce que c'est pas non plus des gens qui font... Oui, qui font attention quand même, inconsciemment, parce qu'ils viennent d'une époque, on s'entend que ça consommait beaucoup moins qu'aujourd'hui, là. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de continuer de m'investir dans l'environnement parce que à partir du cégep, là, j'ai complètement tombé là-dedans. La réduction à la source, tu sais, bien manger. Déjà, avec maman, j'avais déjà bien mangé parce que c'était une diététicienne, mais tu sais, j'ai continué à développer ce volet-là, puis j'en étais tannante à la maison, là.
tu sais, quand le temps du recyclage est arrivé, là, parce que c'est pas comme aujourd'hui, là, c'était pas aussi, on n'en parlait pas autant, là, je suis vraiment contente que de plus en plus, je pense depuis 10 ans, tu sais, c'est un mouvement qui avait émergé dans les années 60, un peu, on parlait un peu de l'environnement, mais qui était pas à large comme aujourd'hui, là, on en parle beaucoup plus. Bon, c'est pas encore, il y a encore beaucoup de travail à faire, on s'entend là-dessus, là. Mais je vois comme un petit espoir que dans le futur, ça soit une norme, tu sais, de réduire à la source, puis les habitations, puis d'où là que ça me tient tellement à cœur qu'avec mon conjoint, on a décidé de construire notre maison écologique, puis tout le monde nous trouve fous, là. Tu sais, pourquoi vous faites ça, là? Je veux dire, casse-toi pas ta tête, prends une maison bonne ville, puis mets-la là, puis ça va être bien moins compliqué avec 3 enfants. Ah, on sait, c'est pas facile, mais... Non, ça vient tellement nous toucher loin en dedans que non, on veut laisser un patrimoine à nos enfants. On y tient, on est prêt à tout mettre les efforts, peu importe ce qui arrive. On va être fatigué, c'est sûr, on en est conscient, mais on le fait. On le fait. C'est un projet de vie.
Ensemble, je te propose une petite mise en situation. Je vais te proposer de fermer les yeux.
Oui.
Et on va faire un saut dans le temps. On va se retrouver en 2030, donc 10 ans plus tard. Tu vas sortir de chez toi et je te demande qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu sens dans ta région.
Ah, oh, je sens toujours la forêt boréale. Puis moi je sors de chez nous, je vais avoir une serre attachée, fait que je sors dans ma serre. En fait, on est autosuffisant. C'est ça notre but, c'est tout ce projet-là. Oui, une maison écologique, mais tout va avec notre consommation. D'être autosuffisant avec nos jardins, avec nos animaux, là, c'est sûr qu'on est en construction, là, on le voit de plus en plus, il y en a qui ont des poules en ville, puis un peu partout, mais c'est quelque chose qu'on projette, puis que les enfants sont plus grands un peu, mais qui, t'as plus de 10 ans, ça veut dire que le dernier va avoir 11 ans, j'essaie de calculer, 11 ans, mon Dieu, Alice va peut-être quitter la maison, mais... Non, c'est ça. Puis qu'on ait partagé nos valeurs. Puis ça, on veut le léguer à nos enfants. Fait qu'on va les faire participer à tout ce qu'on peut faire participer sur notre terrain. Puis ce que je vois dans la région, c'est vraiment un revirement au niveau des entreprises pour que les citoyens puissent consommer autrement. Tu sais, changement de contenant, là. De façon plastique... La politique de bannissement du plastique à usage unique est en place depuis une couple d'années. Donc, il n'y a plus de... On voit moins en moins dans l'environnement de ces produits-là dans le fleuve. Là. Mais je pense qu'on voit des gens qui travaillent de plus en plus ensemble, qui se parlent, puis qui transmettent leurs connaissances, puis qui fait que ben on a d'autres moyens de consommer, puis de réduire à la source. C'est un peu ça mon but dans le futur.
Quel a été le rôle des citoyens pour en arriver là? Ça a été quoi vraiment les grandes actions phares qui ont permis qu'aujourd'hui le fleuve là, comparé à il y a plusieurs années où c'était vraiment plus pollué, là c'est un fleuve qui reprend vie, des gens qui se parlent, qui font des projets ensemble. Quel était le rôle des citoyens là-dedans? Parce que...
C'est d'accepter leur rôle. Pour qu'il y ait un changement comme ça, c'est pas nécessairement... Je sais pas à quel point ils vont s'impliquer physiquement, mais que mentalement, qu'ils aient pris conscience que tout ce qu'ils ont fait, finalement, d'utilisation, de consommation, ça a eu un impact. Ils ont vécu quelque chose, il y a eu un clash à un moment donné, qu'ils n'ont pas eu le choix de vivre pour que la prise de conscience se fasse. Parce que c'est très difficile de convaincre de participer à des événements. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive, c'est plate, là. Mais la pandémie, ça l'a aidé. Je pense un peu, ils en ont parlé beaucoup. Ça a eu un impact sur... on a vu des déchets qui se sont accumulés ou qui n'ont pas accès à tout ce qu'ils voulaient comme avant. Ça a aidé, mais là, on dirait qu'on a repris un peu du poil de la bête de ce côté-là. On est revenu à notre consommation d'avant, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. Qu'il y ait quelque chose dans leur quotidien, que les choses aient changé. Puis moi, dans ce 10 ans-là que tu me parles, je veux que ça se passe. Il y a eu un impact, il y a eu une prise de conscience.
Et par rapport à l'engagement citoyen, parce que...
Comment les engager?
Tu t'es beaucoup engagée dans le cadre... que ce soit dans ta vie professionnelle ou toutes les heures que tu as mis à côté, dans des comités, etc. Est-ce que ça serait une des solutions, l'engagement, pour essayer que les gens aussi, ils deviennent attachés à ce territoire-là, qu'ils soient originaires d'ici ou pas?
Oui, mais je trouve que c'est pas réaliste de penser que tous ces gens-là, parce que c'est la masse populaire silencieuse, il faut qu'ils s'engagent dans leur quotidien à eux. Fait que de s'engager dans la communauté, il va toujours en avoir, puis il en faut, puis il va en avoir, puis... L'idée que je me dis, c'est qu'on réussit à en convaincre à le faire. Ça, c'est correct. Puis qu'ils naissent de plus en plus. Mais tu sais, la masse qu'on n'entend pas beaucoup parler, puis que c'est eux qui ont un impact sur l'environnement, tu sais, c'est eux qu'il faut convaincre. C'est ceux-là qu'il faut convaincre.
Et commencer, pour ces personnes-là, commencer déjà à faire quelque chose à votre échelle.
Oui. Puis tu sais, c'est pour ça que la régie, ben tu sais, pour ma part, là, parce qu'il y a plein d'autres actions qui peuvent se faire, mais de sortir des murs, puis d'aller dans des événements qui touchent les citoyens qui sont pas nécessairement impliqués, puis de trouver la façon de leur faire prendre conscience, tu sais, comme je me rends compte que de plus en plus, là, il y a, tu sais, une certaine génération qui était pas du tout ouvert, exemple, là, de plus en plus, tout le monde est ouvert au recyclage, mais tu sais, que tu leur parlais de l'environnement, puis on était des pelleteux de nuages, là, ils nous appellent, mais que finalement, tu choses avec eux, puis tout simplement, quand ils étaient jeunes, ils faisaient déjà de la réduction, là. À leur époque, c'était tellement mieux qu'aujourd'hui, côté consommation, là, tu sais, la surconsommation est arrivée dans les années 90, là. On a commencé à consommer, je dirais, plus dans les années 50, 60, 70. Fin 90, début 2000, c'est assez récent, la surconsommation qu'on fait aujourd'hui, là. Fait que ces gens-là ont vécu toutes les époques de consommation. Fait que, tu sais, juste de leur dire, ben voici ce que vous faisiez à l'époque, puis c'était bon. Si vous pourriez retourner à ça, tu sais, parce que ce qu'on fait comme consommation aujourd'hui, on ne pourra pas le faire encore. Tu sais, c'est irréaliste de penser qu'on va pouvoir consommer comme on consomme là aujourd'hui. C'est impensable. Fait que, tu sais, en parlant avec eux de cette façon-là, tu sais, souvent, on réussit, puis ils se disent « Ouais, ça, c'est vrai. » Puis, tu sais, je le vois en direct, de plus en plus, ils sont ouverts à en jaser. Parce que, de toute façon, on en parle bien plus, là, des impacts de l'environnement dans les médias, puis il y a 10 ans, on parlait pas autant que ça de l'environnement, là, pas du tout, là. Fait que, tu sais, moi, ça, dans, début 2000, là, fallait que je convainque mes parents à recycler. On s'entend qu'aujourd'hui, tout le monde recycle. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Fait que dans 10 ans, moi, je pense qu'il y a eu un clash pour convaincre ces gens-là qui sont dans l'ombre, souvent la masse populaire qu'on n'entend pas parler, puis que c'est eux qui polluent. Tous ceux qui s'engagent, il y en a plein qui s'engagent, puis il va y en avoir de plus en plus. On pourra jamais demander que ce soit toute la population qui s'engage, mais c'est de trouver une façon de convaincre ceux-là qui sont là.
Et tu crois? Tu penses que, là, si on revient en 2020, est-ce que tu crois qu'on va réussir à se projeter comme ça en 2030?
Il va falloir qu'il se passe quelque chose dans leur milieu. C'est plate à dire, là, mais ça, c'est mon... c'est... Je vais tout faire pour essayer de les convaincre avant, là. Je dis pas que je suis peine perdue là-dedans, mais je pense que pour convaincre tous ces gens-là qui sont bien dans leur confort, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis, tu sais, ou même, déjà, il s'en passe des choses. Puis d'utiliser ça pour les convaincre. Puis souvent, tu sais, comme nous, à Pointe-aux-Stars, on voit l'érosion des berges. Et c'est lié au changement climatique. Mais, fait que ça touche beaucoup de monde. Dans la région, c'est ici... proche de Bécomo. Fait que t'expliques, non, on le vit, là, chez nous, là. On en vit, là, un impact. Fait que ça aide. Ça aide à aller convaincre ces gens-là qui veulent pas en entendre parler, mettons.
Parce que ça leur arrive chez eux, en fait.
Ouais, ça leur arrive chez eux.
On arrive pas mal à la fin de l'entrevue. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé ajouter, que t'as pas pu nous dire?
Tu sais, moi, je fais tout ça pour mes enfants, là. Puis tu sais, au début, j'en voulais pas d'enfants, là, parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens de vivre dans un monde de même. Mais le fait d'avoir rencontré mon conjoint que j'ai, puis que, tu sais, je sais que c'est la personne avec qui je vais être le reste de ma vie, puis que, à un moment donné, l'horloge, elle sonne, ou je sais pas, c'est instinctif. Je veux les préparer à, puis je veux qu'ils soient autonomes, puis que... c'est ça, qu'ils deviennent des leaders aussi, d'une communauté. Fait que ce que j'aime avec les régies, c'est qu'on travaille beaucoup avec les écoles. Moi, je pense que c'est... Je dis pas que je suis découragée de notre génération parce qu'on va réussir à en convaincre encore, mais les jeunes, il faut travailler avec eux. C'est eux qui vont faire la ligne là, qui va couper tout ça. Là. Fait que dans 10 ans, Alice va avoir 18 ans. Fait que si on réussit à convaincre tous les enfants qui ont 8 ans, ben dans 10 ans, 2030, ça peut aller vite. Les choses peuvent changer.
Et on peut en faire des choses quand on est jeune.
Ouais, c'est ça, exact.
Et est-ce que tu aurais une référence à nous partager pour nos auditeurs, un livre à conseiller, un film, quelque chose toi qui t'a parlé?
Moi, je partagerais un dernier livre qu'on a eu à la maison, là, c'est Martin Fortier, qui, lui, sensibilise beaucoup sur l'autonomie alimentaire. Toutes les fermes, les maraîchers qui se sont développés au Québec, là, surtout des bio, puis qui sont éco, oui, en même temps, éco-responsables. Puis c'est que ce que moi et mon chum, on souhaite avoir, là, vraiment, notre propre jardin, puis être autonome. On a la coopérative Gaïa ici aussi, qui se développe dans ce sens-là. Puis j'aime beaucoup la mentalité.
Un petit mot de la fin?
Faut pas lâcher, là, dans des régions qui ça peut sembler difficile, là. Ça résume un peu tout du pourquoi que je continue. C'est des petits projets, comme on le fait à petite échelle, mais qui peuvent avoir un impact. Fait que faut, pour ceux qui arrivent en région puis qui trouvent ça difficile, que ça bouge pas assez vite, c'est pas toujours facile, mais faut continuer. Continuer, puis continuer à convaincre les autres, puis c'est je pense que les choses vont changer. Puis c'est de s'adapter à notre milieu, puis de pouvoir le faire évoluer de façon positive.
Merci, voilà. Merci Karine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vos proches et amis. Merci à toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. À très bientôt.